Revue de presse de l'april, semaine 22 de l'année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors on a une revue de presse qui est très juridique et institutionnelle.
Et plutôt conséquente, 22 articles au total, 8 principaux. Donc il y a des choses assez amusantes, comme toute l'histoire de LinuxFR et l'effet stressant qui s'est déroulé ce week-end, HTML5 et l'EFF, l'innovation ouverte, l'open source et l'entreprise, on va vous parler du plan Maroc numérique 2013, les ministères qui doivent détailler les dépenses, le cloud et la solution Linux, et pour finir, le sujet du moment, vraiment très important, qui nous tient à cœur à l'april, on va vous parler de l'éducation nationale et du numérique. Il y a des choses qui se passent en ce moment même à l'Assemblée nationale.
Numérama, Linkeo s'en prend à LinuxFR et récolte un effet stressant. Article de Julien L.
Donc, il y a eu un gros problème juridique qui est tombé vendredi midi, officiellement.
Oui, et c'est de nouveau un effet stressant. On en avait évoqué un il n'y a pas très longtemps sur... Sur quoi d'ailleurs?
Oui. Et bien sur la DCRI qui avait voulu effacer des informations sur Wikipédia, voilà. À propos d'un centre dont on se fiche en fait, mais finalement la page a été traduite dans 27 langues et diffusée dans le monde entier, contrairement à ce qu'ils voulaient forcément.
Voilà, et donc la linuxfr.org, qui est donc un site tenu par des bénévoles, qui est une sorte de plateforme d'information des libristes, et donc cette entreprise avait dans le forum passé une annonce puisqu'elle cherchait à recruter.
Recruter justement des techniciens pour bosser sur le site web. Malheureusement, il y a eu un commentaire qui critiquait de manière tout à fait factuelle, mais assez fortement leur site web.
Il n'était pas très gentil dans ses commentaires.
Ah, il les a traités de stagiaires, mais
voilà. Il est allé voir leur site et relever toute une série d'erreurs techniques. Du coup, ça n'a pas plu à cette entreprise qui a fait appel à son avocat.
On peut dire donc que c'est Linkeo et c'est une web agency, donc des spécialistes d'Internet, et qui recommandent, c'est marqué sur le site web, ne surtout pas prendre à rebousse-poil les gens sur le net et notamment de ne pas les attaquer de manière frontale.
Plutôt que de demander à nettoyer, essayer de voir comment on pouvait s'arranger avec les gens qui tiennent LinuxFR, ils ont directement envoyé une lettre de leur avocat demandant à effacer les éléments et à payer 1 500 € sous 48 heures, puisqu'en gros le préjudice est considérable.
Effectivement, ils étaient choqués. Bon, bah ça a pas bien marché. Les gens de LinuxFR sont plutôt intelligents. Ils ont effacé l'annonce originale. Ils ont légèrement modifié le commentaire pour enlever le nom. Et pour le coup, ils ont mis une news où ils mettaient un duplicata de la lettre. Et là-dessus, c'est la news maintenant la plus vue sur LinuxFR, la plus commentée, la mieux notée.
Puis ça a été repris à droite et à gauche sur des blogs importants, dans la presse un peu spécialisée. Donc ce fameux effet stressant. Donc cette boîte s'en mord les doigts.
Elle s'est excusée.
Et
deux fois.
En plus de ça, les geeks ont commencé à se jeter là-dessus, à aller regarder les sites web à la fois de l'entreprise, de l'avocat, et à trouver des failles dans tous les coins et des machins.
Oui, il y avait des FTP ouverts, c'était très amusant. Et voilà. Ils ont cartographié tous les serveurs grâce au DNS, enfin des choses connues. On sait que leur politique de nommage est basée sur Goldorak, c'est assez rigolo.
Donc bon, c'était l'événement du week-end, a priori maintenant c'est fini. En tout cas bon, c'était rigolo, ça fait rire pas mal de monde ce week-end. Numérama, HTML5, l'EFF se dresse contre les DRM en déposant une objection formelle. Un article de Julien L. à nouveau.
Là, on reparle de ce qui a déjà été abordé.
Alors, l'EFF, c'est l'Electronic Frontier Foundation, qui est une association américaine qui s'intéresse aux libertés, libertés publiques dans le domaine informatique et des réseaux.
Des gens bien, donc. Hein. Et pour le coup, ils ont été voir d'autres gens a priori bien. Le W3C, un des organismes qui gère les standards sur Internet et en grande partie qui fait fonctionner Internet.
Et qui, depuis 3 semaines, on en parle toutes les semaines, je crois à peu près, mène un projet pour mettre des DRM directement dans le langage HTML.
Donc en gros, c'est pour faire plaisir à certaines entreprises qui vous permettent de louer des vidéos sur le net, ça se fait beaucoup, ça marche assez bien, il semblerait, mais ils veulent s'assurer que vous ne pouvez pas dupliquer ces vidéos, et donc ils veulent modifier les protocoles du net au cœur, hein, pour rajouter des mécanismes de monote numérique et ne plus vous permettre de faire ce que vous voulez avec votre ordinateur.
Donc ça pose des problèmes en termes de logiciel libre, puisque pour contrôler absolument l'usage que vous allez pouvoir faire de ces fichiers, il faut qu'il y ait une part à laquelle vous n'ayez absolument pas accès. Or, c'est contraire à nos principes, où on doit pouvoir accéder au code source et le modifier à loisir, et donc ne pas se faire enfermer. Donc évidemment, la vidéo, c'est l'élément qui est là, et ce que dit l'EFF, hein, c'est qu'en gros, c'est un premier pas dans un Internet de verrouiller, contrôler, que si on commence comme ça, on ne sait pas où ça va nous mener.
Je rappellerai, hein, les vendeurs de musique en ligne ont tourné Kazakh, ils ont mis plein de menottes numériques au début, ils se sont rendus compte que ce n'était pas très bon pour leurs clients, parce que finalement les clients qui suivent les règles étaient lésés, et donc ils ont petit à petit enlevé ces menottes numériques et leur marché...
Ça marche pour la vidéo parce que c'est, en fait c'est l'équivalent de la location, avec des fichiers qui sont valables 48 heures, et notamment dans la musique, ils avaient eu plein de problèmes, parce que dans la durée, quand il suffisait de changer de machine, de faire des copies, etc., ça finissait par plus marcher, c'était vraiment une usine à gaz. Sur 48 heures, ils s'en sortent à peu près, mais on est toujours dans une situation où il faut avoir le lecteur, le système d'exploitation adéquat, et avec des trucs pas très marrants, comme des contrôles sur l'usage. Alors, j'ai un exemple que j'aime bien, j'ai un collègue qui a fait ça. Un fichier valable de jour, il a regardé la moitié du film le premier jour en se disant je regarderai la suite demain, et le lendemain il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas reprendre le film à la moitié, le lecteur lui imposait de recommencer la lecture au début du fichier, donc du coup il n'a pas vu la fin du film et il était bien dégoûté. Le cercle Les Échos, l'innovation ouverte est-elle vraiment ouverte? Un article de Pénin Julien.
Donc rien que le titre est assez bizarre, l'article aussi quelque part, parce qu'on parle d'innovation ouverte, mais c'est pas de l'ouverture au sens où dont on parle d'habitude.
La notion d'open innovation, l'intérêt de l'article, c'est qu'il nous explique que c'est quelque chose qui est apparu en 2003 et qui n'est pas lié au mouvement libre et open source. C'était l'idée d'avoir d'échanger des informations et des savoir-faire entre entreprises.
Oui, entre personnes du clan, parce que elles utilisent justement les droits d'auteur, les brevets et les différentes règles de la propriété intellectuelle pour s'échanger entre elles, et donc ils appellent ça de l'innovation ouverte entre les gens bien, on peut échanger de manière
consensuelle. Cet article il a deux intérêts, hein. Le premier c'est effectivement de recadrer le truc, parce qu'à une époque où tout est open et que c'est un truc très à la mode et qu'on fait l'open washing, il recadre en disant attention, l'open innovation c'est pas dans ce cadre là. Deuxième truc intéressant, c'est qu'il va parler de ça en disant que derrière il va y avoir du brevet, des choses comme ça, mais que le système libre tel que nous on l'apprécie fait partie de ça et que c'est une stratégie parmi d'autres. Donc ça c'est les deux éléments positif, mais après ça on sent quand même dans l'article qu'il y a un côté très pro-verrouillage.
Oui, hein, on sent bien qu'il y a des entreprises qui veulent faire du business, qui sont entre copains, et d'ailleurs c'est un bon moyen d'exclure les nouveaux arrivants, et qui oublient tout simplement que l'innovation ouverte, au sens où nous on l'entendrait, ce serait du logiciel libre, ce serait la méthode scientifique, hein, tout simplement.
Où ça, ils oublient d'en parler, hein, c'est que la méthode, ce que moi j'appelle l'économie du savoir scientifique, je crois que je ne suis pas le seul, c'est cette idée de publier, donc que ce soit que les informations, les résultats des recherches soient publics, qu'on soit validé par ses pairs. Ça a quand même largement prouvé sa valeur et son efficacité.
Au cours des siècles, oui.
Voilà, ça, il n'en parle absolument pas dans son article. Il parle de brevets qui permettent de se défendre. Il y a quand même des entreprises et des très grosses entreprises qui vont également poser des brevets sur des choses qu'ils ne vont pas exploiter, mais de telle sorte que leurs concurrents ne puissent pas aller faire fructifier un terrain que eux auraient négligé, mais très volontairement. Et je sais que ça se fait notamment dans les cosmétiques, j'avais lu un article là-dessus il y a un an ou deux.
La guerre des brevets qui a fait beaucoup parler et qui a fait beaucoup de mal économiquement, des grosses dépenses pour faire en sorte que les gros se tapent les uns sur les autres et empêchent les petits d'arriver sur le marché.
Voilà, on en parle depuis 2 ans, Apple, Google, Microsoft qui se tapent dessus.
Et dans le pharmaceutique, je crois que c'est pas mieux, hein, loin de là.
Et donc, il faudra quand même qu'il nous explique comment tout ça est quelque chose d'absolument positif pour l'innovation. ZDNet, logiciel libre et open source en entreprise, la nécessité d'une politique précise, un article de Thierry Noisette.
Donc, c'est un des résultats du salon logiciel libre et open source. Donc, où on était d'ailleurs. Et là, il y a eu des tables rondes, il y a eu des discussions d'entreprises en grande partie, parce que c'est quand même un truc très industriel, hein, très pro. Et là, qu'est-ce qu'il disait sur justement... comment une entreprise doit gérer au mieux le libre et l'open source en son sein.
Alors autant l'article précédent est assez pro-verrouillage, propriété intellectuelle, tout ça, là on est avec des entreprises qui sont plutôt pro-libre, évidemment, puisque c'est au salon en question, mais avec des grosses boîtes comme HP par exemple, et ils expliquent qu'il faut avoir une politique, c'est-à-dire réfléchir en termes de licences, puisqu'il y a quand même des conséquences juridiques en fonction des licences qu'on utilise.
Oui, qu'on néglige parfois, mais que justement il faudrait éviter.
Et qu'on est amené à prendre des briques logicielles, et qu'il faut avoir une politique pensée à l'avance en disant on peut faire telle ou telle chose, ou pas telle ou telle autre, et dans telle ou telle condition.
Donc, dans une certaine mesure, ils vendent peut-être un peu de leur soupe, mais pourquoi pas, parce qu'ils proposent des services d'audit, de supervision, pour s'assurer d'avoir une stratégie d'organisation de son code, et vérifier, suivre quelles sont les licences qui s'appliquent, quelles sont les...
Est-ce qu'elles sont compatibles entre elles, etc.
Par exemple, et donc des choses qui peuvent être intéressantes. Si votre boîte veut faire du libre et commence à avoir une certaine taille, ça peut être pertinent à réfléchir. Généralement, on fait une section avec avec des gens qui sont spécialisés sur le libre.
Voilà,
ça peut
mais
être
ce qui est intéressant, c'est de voir qu'HP
date.
A un logiciel donc qui a automatisé tout ça. Et en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait des réflexions là-dessus, parce que c'est effectivement une des critiques à l'encontre du libre qui n'est pas complètement fausse, hein, qui est de dire qu'avec la multiplication des licences, ça devient un casse-tête juridique, hein, voilà, qui est très compliqué. Et eux disent, bah, à partir du moment où on y va, on le sait à l'avance et qu'on y réfléchit à l'avance, eh ben, on peut s'en sortir et il y a des outils pour ça. Donc la démarche et la réflexion est très judicieuse. La vie éco, logiciel libre, le grand oublié du plan Maroc numérique 2013, un article de Zakaria Larache.
Donc un nouveau site que je n'avais pas vu avant, mais qui est assez intéressant, avec un bon article assez classique finalement, les avantages, les inconvénients du libre, au niveau d'un pays, au niveau de ses administrations et de ses entreprises. Donc là, on parle du Maroc en particulier.
Et il cite un plan numérique, ça fait un petit peu penser à ce qui se passe chez nous et dans d'autres pays.
Mais moi, c'est ce que je crois voir en entre-ligne. Hein. C'est effectivement, il y a un côté, on veut suivre ce que font les grands, et pourquoi pas.
Bah, c'est pas évident, puisque... Enfin, je dis, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France, puisque dans ce plan numérique 2013, le logiciel libre n'est pas prioritaire.
Oui, ça fait mal au cœur, on en parlera un peu plus loin, parce que c'est complètement d'actualité. Ceci dit, voilà, le rédacteur de cet article a l'air, lui, de pousser à fond pour le libre,
ah,
pour toutes les qualités dont on a pu parler dans le passé, et si vous voulez les revoir bien, allez voir cet article sur la vie éco. Donc, des choses bien, honnêtement, j'espère que...
Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en France, on parle beaucoup d'argent, et on en parle ces dernières semaines en disant que l'argument monétaire est souvent mis en avant, et là, la conclusion, l'argument qui est mis en avant dans la conclusion, une citation de Mohamed Zanane, qui est donc un universitaire marocain, qui dit « À mon avis, l'utilisation du logiciel libre dans l'administration n'est plus un choix, mais une obligation dictée par les principes mêmes de la transparence et de la bonne gouvernance qu'elle véhicule. » Et donc, on n'est pas dans des questions de fric, on est dans des questions de transparence et de gouvernance. Et donc, ça fait plaisir de voir que le libre est reconnu dans cette dimension-là.
J'arrive même jusqu'à dire, on applaudit et j'espère que ça aura des conséquences positives.
PC Impact, les ministères priaient de détailler les dépenses en logiciel libre et non libre, un article de Xavier Berne.
Donc, on va en parler rapidement, mais c'est quand même un peu amusant. Quelqu'un est en train de spammer le gouvernement et les ministères à base de questions sur le libre. Donc,
C'est la suite de ce qu'on avait évoqué la dernière fois ou l'avant-dernière fois.
Oui,
sur,
c'est la même personne.
Voilà,
hein,
c'est la même personne. Donc il y avait une première question qui était passée il y a quelques mois qui avait amené à dire...
Quelques semaines. On en a parlé il y a très peu de temps.
Oui, mais la question avait été posée bien avant.
Ah,
il a fallu le temps de calculer. C'est combien l'État dépense en licence de logiciels propriétaires. Donc, une fois la réponse obtenue, donc cette députée, Madame Isabelle Attard, a posé autant de questions qu'il y a de ministères, et en disant, et vous, combien vous dépensez en logiciel libre et en logiciel propriétaire? Donnez-nous les chiffres.
Donc on sait que le gouvernement est très très bien organisé. S'ils sont très bien organisés, bah, ça ne sera pas difficile de répondre, mais on peut s'attendre à ce que justement il y ait des petites erreurs qui puissent se glisser.
Ce sera intéressant de faire la comparaison.
Voilà, il va y avoir une bonne comptabilité analytique à ressortir de tout ça, une petite comparaison. Ça peut être assez fun.
En tout cas, ce sera des infos très intéressantes, centrées sur l'argent, mais...
Pourquoi pas?
Mais intéressantes quand même. Le Monde Informatique, solution Linux 2013, l'open source à l'assaut du cloud par Jacques Cheminat.
Donc on recontinue sur les solutions logiciels libres et open source. Mais
c'est
là,
un article bilan et qui est centré sur cette question du cloud, l'informatique en nuage. Bon, il n'y a rien d'absolument fabuleux, il cite toute une série de produits et en disant que on ne parlait que de ça sur le salon.
Moi je vois un côté intéressant à cet article, c'est qu'en fait il a détecté quelle était la mode du moment, et effectivement la mode du moment c'est le cloud computing.
On le savait déjà quand même.
On le savait déjà, mais là il a simplement confirmé la chose. La petite chose amusante, c'est qu'il y a plein de boîtes qui en fait en faisaient sans le savoir, et qui ont renommé un petit peu leur stratégie, leur technologie. Elles font du cloud, hein. C'était d'ailleurs de l'hébergement qui existe depuis déjà longtemps. Donc allez lire l'article, ça permet de suivre un petit peu ces actualités-là.
PC Impact, projet de loi sur l'école, l'usage du libre devient une priorité, un article de Marc Ress.
Et donc l'actualité du moment dont on parle et qui est la principale occupation à l'April.
Qui revient en troisième semaine, ce projet de loi qui est discuté, le Sénat, une commission du Sénat a dit ben, mettons du libre à l'école de façon prioritaire.
Alors au début c'était même de façon obligatoire, hein,
exclusive.
C'était du libre et des contenus ouverts.
Et donc c'est pas dans la revue de presse parce que ça date de samedi et c'est discuté ce soir même puisque nous sommes lundi au moment où nous enregistrons. Le gouvernement a complètement liquidé ce machin, en tout cas dilué dans une formule qui est en gros il faut le prendre en compte, ce qui ne veut pas dire grand-chose et est absolument pas contraignant.
Donc c'est rageant, il y a eu trois étapes, c'était obligatoire, c'était prioritaire et maintenant il faut le prendre en compte si cet amendement est accepté. Hein.
C'est pas encore voté à l'heure où on enregistre.
Mais en tout cas, cet article 10, on attend impatiemment qu'il passe à l'Assemblée nationale, qu'ils en discutent. Il est possible qu'il soit voté tel quel. Aujourd'hui même, il y a des gens qui téléphonent, qui envoient des mails pour essayer de s'assurer que les députés aient un petit peu les bons sons de cloche.
Ça montre cette difficulté à avoir une politique volontaire. On rappelle qu'en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas également, je crois, il y a des politiques très volontaires qui imposent du logiciel libre dans les administrations. Enfin, là, on est dans le cas de l'école, mais en tout cas...
marchés publics.
Voilà, qui arrivent à imposer le logiciel libre, chose qu'on n'est pas capable de faire. On n'arrive pas à aller au-delà de la déclaration de bonnes intentions. Très bien, c'est la fin de cette revue de presse. Merci Manu.
Bon, à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.